Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Uzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, près de 70% des citoyens israéliens se sont rendus aux urnes. Ce faisant, ils ont contredit les pronostics que prévoyait une plus faible participation. C'est dire que la population de l'État hébreu s'intéresse à la vie du pays. Il est donc logique, même nécessaire, de parler abondamment de ces élections. Ainsi, d'excellents spécialistes, des militants, des journalistes vous ont expliqué les enjeux politiques et sociaux qui sous-tendent cette consultation, notamment sur notre radio Judaïque FM. Mais, maintenant que les résultats du vote sont officialisés et que les tractations pour la formation d'un gouvernement se poursuivent, on peut se demander ce que les Israéliens pensent de la situation qui prévaut. Particulièrement, on se tournera vers ceux qui sont les plus exposés à la violence et à la guerre, vers les habitants du sud d'Israël, dont les villes et villages jouxtent la bande de Gaza. Pour cette raison, j'ai demandé à Jehan Berman de venir témoigner en nous donnant son ressenti et ses attentes par rapport au processus électoral. D'origine belge, Jehan a fait son alia en 2001 et s'est installé à Jérusalem. Pendant la seconde intifada, il a été commotionné suite à un attentat. Parachutiste à Tsahal, il a été blessé à Bethléem. Par la suite, il s'est installé dans un village proche de la bande de Gaza où il s'est lancé dans l'agriculture. Pendant l'opération Bordure Protectrice en 2014, il a été touché au dos lors d'un bombardement du Hamas alors qu'il protégeait sa famille. Récemment, des ballons incendiaires ont brûlé une partie de ses serres. Jehan Berman est diplômé en sciences politiques du Centre stratégique d'Herzliya. Jehan Berman, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour Jehan, vous allez bien ?
Oui,
d'accord.
Très bien.
Alors, commençons tout de suite. Dites-nous comment vous analysez les résultats de ce scrutin et que ressentez-vous en voyant les tractations politiques pour monter une coalition gouvernementale ?
Premièrement, je pense que ces élections, c'est le second tour d'élections qu'on fait en moins d'un an, en 6 mois. Et je pense qu'on voit une grande différence entre les résultats d'avril et les résultats de maintenant. La grande différence que moi je vois, c'est qu'il y a le bloc pro-Bibi, qu'ils appellent le bloc de droite, mais qui n'est pas un bloc de droite, parce que les ultra-religieux et les orthodoxes ne font pas partie du bloc de droite. Ils font, jusqu'à 2006, ils faisaient partie ils étaient indépendants et ils allaient dans tous les gouvernements. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le bloc de droite, le Likoud plus Yemina, qui était la branche du sionisme religieux, a fait 37 sièges. Quand on voit que le centre plus la gauche ont fait 44 sièges ensemble, on voit qu'il y a un changement dans la société israélienne qui souhaite effectivement un changement. Ça a été très fort ressenti. Le Likoud a fortement baissé. Il est passé de 39 sièges parce qu'il y avait, en avril, il y avait le Likoud avec 35 plus Kahlon avec 4 sièges qui faisaient 39. Aujourd'hui, ils sont ensemble, Kahlon et le Likoud, sont à 31 sièges.
Mmh,
on voit une grosse chute. Je vous parle même pas des enquêtes qu'il y a sur le dos de Benjamin Netanyahu, qui, entre parenthèses, d'ici une semaine, va à son audition à la police pour voir si effectivement il y aura une mise en accusation ou pas. En tout cas, le message a été très clair. Une grande partie des Israéliens veulent un gouvernement d'union nationale sans ultra-orthodoxes. Ça a été le message du parti Blanc Bleu, ça a été le message de Lieberman, et ces deux partis, non seulement n'ont pas diminué, mais ont augmenté. On voit que la gauche s'est maintenue, La gauche n'est pas très forte, mais elle s'est maintenue avec 11 sièges entre le camp démocratique et le parti travailliste. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois qu'il y a une volonté de changement au sein de la population et qu'on veut, la population veut vraiment un gouvernement d'union nationale.
Mais Jean Berman, quelle est la nature de changement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous nous parlez de changement, mais quelle est la nature de ce changement? Qu'est-ce qu'ils attendent?
Le changement, c'est que les gens attendent qu'on résolve les problèmes. On parle du Sud beaucoup, où effectivement on souffre ici beaucoup, mais ici en Israël, si vous voulez aller voir un spécialiste, un docteur du dos ou peu importe quel spécialiste, vous avez entre, au meilleur des cas, 3 mois d'attente. Au meilleur des cas, si vous êtes bien pistonné, vous aurez 3 mois d'attente. Sinon, c'est entre 6 mois et 1 an pour voir un docteur. D'accord. Pour voir un docteur, je ne vous parle même pas si vous êtes hospitalisé, vous restez dans les couloirs, s'il n'y a plus assez. Ou alors on vous dit...
Vous parlez d'expérience,
bon,
là.
La prochaine. Ah oui, là je parle d'expérience. Moi, quand j'étais blessé et que j'ai dû avoir plusieurs opérations après ma blessure de bordure protectrice, plusieurs fois j'ai fait mon hospitalisation dans les couloirs.
D'accord.
Dans les couloirs, on m'opère, hop, et tu reviens et t'attends dans le couloir. Mm-hmm. Et c'est là que tu fais ta convalescence à l'hôpital. Mm-hmm. Je vous parle, c'est vraiment le haut de l'iceberg. On a un gouffre, la dette nationale qui augmente d'année en année. Ok, donc peut-être qu'effectivement, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses qui ont été faites, mais du point de vue social à l'intérieur d'Israël, c'est une véritable catastrophe parce qu'effectivement, les gens n'arrivent plus au fin de leur fin de mois. La fin de mois commence le 15. Les crèches et tout ce qui est le gardiennat des enfants en bas âge de moins de 3 ans, il n'y a aucune supervision. C'est-à-dire que demain, n'importe qui peut dire, voilà, j'ouvre une crèche.
D'accord.
Il n'y a aucune supervision.
Dites-moi, Jean Berman, vous habitez le sud d'Israël, vous êtes proche de la bande de Gaza. Est-ce que vous et les gens de la région d'Eshkol, vous avez des attentes particulières vis-à-vis du gouvernement qui va se mettre en place?
Ah oui, on a des attentes. On a envie de vivre tranquillement ici. On a envie que la situation se résolve. Ça fait depuis 2006 que le Hamas a pris le pouvoir, qu'on est sorti de la bande de Gaza. En 2007, le Hamas a pris le pouvoir. Et en 2009, on était déjà à la première guerre. 2009, Benjamin Netanyahu vient au pouvoir. Et depuis, on a déjà eu encore deux autres guerres. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que nous, ici, on souffre tous les jours. Tous les jours, que ce soit les ballons incendiaires, que ce soit les tentatives d'infiltration. Il y a encore une semaine, trois terroristes avaient franchi la frontière et ont été arrêtés à 300 mètres de mon village alors qu'ils étaient armés. C'est tous les jours. Tous les jours, on a des choses ici. On n'en parle pas. Même ici en Israël, on n'en parle pas. Mais c'est tous les jours. Donc, ça fait 1 an et demi que ça dure. On n'arrive pas. Nos enfants de 10, 12 ans qui ne veulent pas aller aux toilettes tout seuls, qui ont peur d'aller se doucher, ou alors des gamins de 15 ans qui refont pipi dans leur lit parce que de le moindre boum ou de la moindre porte qui claque, ils ont peur. C'est des enfants qui ont grandi sous les bombes. Ils connaissent que ça. Mmh. Alors nous, ce qu'on attend de notre gouvernement, c'est qu'il change la réalité.
Mais d'accord alors, est-ce que vous êtes prêt, parce qu'on l'a reproché ça, on comprend que vous reprochez à l'ancien gouvernement de Benjamin Netanyahou de ne pas avoir résolu le problème avec le Hamas, mais est-ce que les gens d'Eshkol, de la région sud d'Israël, sont prêts à ce que Tsahal soit plus dur vis-à-vis des islamistes palestiniens? Est-ce que vous êtes prêt à une autre guerre?
Nous, on est prêt à une autre guerre si effectivement, après cette guerre, il y a quelque chose. Si c'est pour faire la même chose qu'on a fait pendant la bordure protectrice, une guerre qui était vraiment extrêmement longue, extrêmement pénible et en intensité très très forte, ça a duré presque plus de 2 mois. On n'a jamais eu une guerre aussi forte face à Gaza. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Rien. Il n'y a pas eu un pour parler. Il n'y a rien eu. Après une guerre, il faut faire quelque chose après la guerre. Si on fait la guerre pour faire boum boum et puis on fait rien et on attend que le Hamas de nouveau s'arme, parce que là il est armé encore plus qu'il n'était avant la guerre de 2014, ça ne sert à rien. Nous on est prêts. Nous on est prêts à subir une guerre encore une fois. Si effectivement
il y a une solution politique derrière,
il y a une solution diplomatique derrière. Mais
alors comment vous expliquez
envoyer nos enfants à se faire tuer, ça ne sert à rien.
Comment vous expliquez que les gens du Sud, en majorité, Sderot notamment, votent pour encore pour Netanyahou en majorité ?
Alors, les gens du Sud, il faut arrêter avec cette stigmatisation. Les gens du Sud, ce n'est pas que Sderot et ce n'est pas que Kennedy vote.
Ouais.
D'accord ? Si vous prenez par exemple le conseil régional d'Eshkol, qui lui souffre le plus durant ces cinq dernières années, tant au niveau des roquettes qui tombent dans nos champs ou dans tout près de nos maisons, ou les ballons incendiaires, ou les infiltrations, c'est le conseil régional d'Eshkol qui souffle le plus. C'est marrant que le conseil régional d'Eshkol n'a donné que 13% de vote à Benjamin Netanyahou et 3% à la droite.
D'accord. Donc c'est pas...
Il y a une véritable volonté de changement. Beaucoup, ici, le parti blanc-bleu a reçu 45% des voix. 45%, c'est énorme. Donc, Sderot, pourquoi est-ce que Sderot veut principalement Likoud ? Parce que le maire est de Likoud et que le gouvernement a investi beaucoup d'argent là-dedans. Pourquoi est-ce qu'à Sderot, par exemple, où il y a 13 000 enfants, il y a 18 parcs de jeux ? Chez nous, à Eshkol, où on a 10 000 enfants, on a reçu zéro.
D'accord.
Zéro.
Une dernière question.
Pourquoi est-ce que quand Benjamin Netanyahou vient dans le Sud, il ne s'arrête qu'à Sderot et ne vient pas voir les gens qui sont le plus touchés.
D'accord. Jehan, une dernière question parce que le temps passe. Un quart d'heure, ça passe très vite. Est-ce que vous seriez, vous et d'autres gens du Sud d'Israël, est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait un rapprochement avec la liste unifiée des partis arabes qui auront 12 députés à la Knesset et qui pourraient soutenir une majorité ou alors qui pourraient soutenir une union nationale sans Benjamin Netanyahou?
Écoutez, moi je vais vous dire, si vous venez, vous prenez ici dans la région et vous voyez qui construit nos abris, qui construit nos maisons et qui construit nos routes. Quand moi j'ai été opéré après ma blessure, le chirurgien neurologue en chef était un arabe israélien. Alors il faut arrêter de diaboliser les arabes israéliens comme s'ils voulaient tous la mort d'Israël et tous nous tuer comme Benjamin Netanyahou l'a sorti de son Facebook. Non, c'est pas vrai. On a des juges, on a des policiers, on a des gens brillants dans la société arabe. Il est temps d'inclure la société arabe en Israël.
Donc vous êtes pour le soutien.
Je suis pour intégrer effectivement bien plus la société arabe, tant dans le système politique que dans la société israélienne. Regardez ce qui s'est passé avec les partis ultra-religieux qui, il n'y a pas longtemps, étaient considérés anti-sionistes depuis qu'ils sont dans la coalition. Ils sont devenus plus sionistes qu'avant.
D'accord. Alors écoutez, on va arrêter l'interview parce que le temps passe. Je vous remercie. Je note que vous êtes pour le soutien d'une liste arabe. Si on arrive à un gouvernement, il faut qu'on trouve une solution que tout le monde et qu'on refasse la paix sociale en Israël. Donc je vous remercie de votre interview et je vous invite tous ce soir à venir au Cercle Bernard Lazare, au 10 rue Saint-Claude, pour une discussion et une présentation des résultats des élections à la Knesset. Ça sera au Cercle Bernard Lazare à 20h30, 10 rue Saint-Claude, avec Claudine Corral de Al-Monitor et David Shema, secrétaire général de Gilcol. Shabbat Shalom, ou plus exactement Shana Tova, car on est lundi. Shana Tova à tous et à toutes, et on se retrouve dans 15 jours. C'est Paul Meyerson, chronique pour la paix.